Radio Canu vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, sanctifié. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement, CVRP.
Je sais bien, tu partiras.
Dans sa chambre, derrière les persiennes de la fenêtre, Marc d'Anteuil voit plaqué contre le rebord de la fenêtre Charles embrassant Christine. Cela l'excite. Il voit les mains de Charles dans le manteau de Christine toucher son corps et Christine se plaquer à lui. Marc sent naître en lui un double désir. Être à la place de Christine
et à la place de Charles.
Il n'ose pas bouger, de peur de les effrayer. Charles a plaqué son cartable contre les persiennes, et lorsqu'il se penche trop, il fait bouger le cartable. Après ce long baiser, ils se parlent. Marc ne comprend pas, il parle trop bas. Puis, Charles prend son cartable en cuir noir et il s'éloigne. Marco suit, s'éloigne de la fenêtre et se retourne. La pièce, sa chambre, est grande et vaste, mais elle paraît petite à cause du fouillis qu'il y a. Marc refuse à ce que quiconque aille dans sa chambre, même pas les domestiques. C'est une pièce carrée. De l'autre côté de la fenêtre se trouve, à droite, la porte. À gauche, contre le mur, l'armoire Louis XV. Ces portes ne peuvent plus fermer tellement elle est pleine. Le dessus de l'armoire a des cartons. Tout cela sont des vêtements vieux, usés. Marc ramasse les vieux vêtements que les gens du quartier entassent et déposent pour les pauvres. Ce n'est pas qu'il soit pauvre lui-même, mais il n'aime pas dépenser. Au milieu de la pièce se trouve un lit défait à une place. Sous le lit et autour du lit, des cartons remplis de vieux journaux. Dans un angle du mur, une petite table où se trouve tout ce qu'il faut pour prendre son petit déjeuner. Le bol et la cafetière. C'est sale et il y a plein de miettes. Marc va s'asseoir sur le rebord de son lit. Marc Danteuil a 50 ans. Il est grand, gros, a les cheveux grisonnants, le visage dur. Sa tenue est négligée et sale. Un vieux pull gris rapiécé et taché, un pantalon marron taché et des pantoufles de laine marron. Il entend la porte d'entrée s'ouvrir enfin. Il se lève pour entrebâiller la porte de la chambre. Après avoir vu qui était rentré, il referme la porte. Vient d'entrer dans l'hôtel des Danteuil un jeune homme habillé d'un costume gris et d'une chemise rose. Il porte à la main son cartable. Il est grand, mince, cheveux blonds foncés, yeux bleus, visage agréable. C'est Charles Danteuil, 18 ans. L'hôtel d'où il vient d'entrer est à son grand-père. C'est une grande bâtisse du XVIIIe siècle dans le quartier du Marais à Paris. Les meubles sont d'époque. Habit, hall d'entrée, avec les escaliers en marbre qui donnent aux chambres, au petit salon et à la bibliothèque. Au rez-de-chaussée se trouvent les communs, salle à manger et grand salon. Et puis aussi la chambre de l'oncle Marc que vous avez déjà vue. L'oncle Marc tient absolument son indépendance et c'est pour cela qu'il a choisi cette chambre pour être plus seul. Charles prend les escaliers. Et entre dans le petit salon. Se trouve assis sur une chaise près de la fenêtre sa mère. Elle lit. En le voyant arriver vers elle, elle sourit. Irène de Danteuil a 40 ans. Elle est grande, mince, cheveux blonds, visage fin. Elle porte une robe bleu roi. Bonjour, mère. Charles se penche pour l'embrasser. Bonjour, Charles. Après avoir salué sa mère, Charles est allé dans sa chambre. Elle est vaste et décorée comme une cabine de bateau du début du siècle. Même les murs ont été boisés. Il y a un compas, des cartes, une boussole. Charles adore les bateaux et la mer. Une fois dans sa chambre, il met son cartable sur la table. Quitte sa veste et s'allonge sur le lit. Charles ne fait pas grand-chose, on peut même dire qu'il ne fait rien. Il doit préparer son bac et est au lycée Henri IV, mais cela ne l'intéresse pas. Il attend quoi? Il ne sait pas, mais il sait qu'il va se passer quelque chose qui bouleversera sa vie. Ce quelque chose ne viendra ni de Christine, ni du lycée, mais d'ailleurs. Thank you. 21h, toute la famille est réunie dans la salle à manger pour le dîner. Nous en profiterons pour présenter les autres membres de la famille. Celui qui préside, c'est le grand-père de Charles, François-Xavier d'Anteuil, 65 ans. Grand, mince, cheveux gris, tête majestueuse et osseuse. Il ne fait plus rien et reste la plupart du temps dans son bureau. À sa droite se trouve son fils, le père de Charles, Jules d'Anteuil, 45 ans, grand, mince, cheveux noirs avec une petite moustache. Son visage, je ne sais quoi de mon cœur. C'est lui qui fait vivre la famille, qui possède une banque et différentes affaires. Aime un peu trop les femmes. Ensuite, nous avons la sœur de Charles, Rosemarie, 16 ans. Grande comme toute la famille, mince, brune, visage rieur et moqueur, ne pense qu'à s'amuser. Voilà, vous connaissez toute la famille. Comment ? Ils se connaissent ? C'est-à-dire très peu, comme toutes les familles. Car chacun ne connaît ses parents que lorsqu'ils sont réunis ensemble dans le cadre familial, mais en dehors. Personne n'est capable de dire ce qu'ils font et comment est l'autre. Charles et sa copine Christine qui habitent un petit deux pièces dans un vieil immeuble boulevard Saint-Michel. C'est un meublé. Une pièce commune avec coin cuisine et douche et une chambre. Les meubles sont disparates 1950. La tapisserie est sombre, de grosses fleurs. L'appartement est aussi sombre. Christine n'aime pas faire le ménage, alors tout traîne. Sur les chaises, le lit, des vêtements. Sur la table, des livres et cahiers. Les disques et cassettes sont à même le plancher et l'évier est plein de vaisselle. Mais ceci n'est pas grave, car Christine Lalande vit au jour le jour. Elle a été vendeuse chez Bata, maintenant elle est au chômage. Sa famille l'aide un peu, et ses copains aussi. Quelquefois, lorsqu'elle a envie, elle fait au noir des ménages chez les mémés du coin. Charles, allongé, habillé sur le lit, à côté des vêtements, la regarde danser sur un air de rock. Il l'aime bien. Elle a 20 ans, pas mal, grande, mince, blonde. Elle porte une chemise d'homme blanche. Une fois qu'elle est finie de danser, elle se couche à côté de lui sur les vêtements. Il sourit. Elle lui demande: pourquoi tu souris? Parce que je suis bien avec toi. Dans cette gargote? Oui. Pourtant chez toi? Il sourit. Oui, mais il y a mon père qui ne pense qu'à son fric ou aux filles. Ma mère qui pleure tout le temps. Et mon grand-père qui m'aime bien, mais il vit comme du temps des croisades. Alors, tu vois, c'est dans le lugubre là-bas. Tu exagères. Oh, que non! On sonne à la porte. Laisse, je vais ouvrir. Il se lève et va ouvrir sans regarder. C'est un jeune adolescent. Bonjour. Bonjour, le professeur. Le jeune est troublé car Charles le regarde bizarrement. De Perno vous fait dire à mademoiselle Christine qu'elle peut venir vers 18h. Christine se met à crier. D'accord, j'arrive. Au revoir. Et le jeune se retourne pour descendre les escaliers. Il est grand, mince, cheveux noirs, visage très fin, élégant. Tout semble délicat chez lui, Il porte une gabardine beige, un foulard noir et un pantalon noir. Charles reste dans l'encadrement de la porte et le regarde descendre les escaliers. Une fois qu'il a descendu, il ferme la porte et retourne vers Christine. Il se sent tout drôle. Il ne sait pas ce qui se passe. Mais cette apparition lui fait quelque chose. Pourquoi? Il ne sait pas. Il voit Christine. Le jeudi, c'est le jeûne. Le jeûne qui vient prendre des cours de piano. Le professeur qui habite la maison m'a demandé de donner un coup de balai le soir chez lui. Charles ne peut s'empêcher de penser au jeune inconnu. Il ne sait pourquoi, mais quelque chose dans le regard de l'adolescent l'a frappé. Charles va trois fois par semaine voir sa copine. C'est surtout pour être près d'elle. La plupart du temps, ils ne font rien, ou presque rien. Ce n'est pas vraiment des sentiments entre eux, ni du physique, c'est du copinage. Ils ne les désirent pas vraiment, mais cela ne l'empêche pas de faire de temps en temps l'amour, surtout lorsque Charles en a envie, ce qui le rend fougueux et violent même. Un après-midi, en allant chez elle, il rencontre le jeune qui sort de l'allée juste avant qu'il n'y rentre. Charles lui dit « Bonjour, bonjour ». Au lieu d'entrer dans l'allée, il suit le jeune. « Je m'appelle Charles, et toi, Gilles, tu habites loin ?»« Non, deux rues plus loin. » Et il continue à marcher. Charles ne sait comment continuer la conversation. Alors, tu apprends le piano? Oui, c'est surtout pour faire plaisir à ma grand-mère. Tu vis avec ta grand-mère? Oui, mes parents sont morts d'un accident de voiture. Tu aimes la musique classique alors? Non, pas vraiment, j'aime plutôt le rock. Quel est ton groupe préféré? Ariane Mindray et Yavé. C'est vrai? Ils sont bons, Ariane. Ils ont fait une de ces morceaux dans leur dernière compilation. Tu sais, qu'ils vont jouer la semaine prochaine au Club 7. Oui, si tu veux, on y va ensemble. Là, je ne sais pas. Il faut que je demande à grand-mère du côté financier. On est un peu juste. Si tu veux, je peux. J'aime mieux pas. Je ne saurais pas comment je pourrais te rembourser. Qui te parle de me rembourser? Pourquoi m'offrirais-tu une place de concert? On ne se connaît pas. Comme ça, je te trouve sympathique. Et puis, qu'est-ce qu'une place de concert? Dis oui. Allez. Bon, d'accord. On se donne rendez-vous au club? Oui, bon. Oui, d'accord, c'est bon.
également tous les numéros, hein, absolument. Comme la mienne, les corps sont fermés en haut, vous ne pouvez pas accéder. Alors en plomberie, ça servirait également pour dégoujoler, pour changer une boîte de vitesse, pour purger les freins, quelle que soit l'utilisation que vous avez, que vous ayez une Rolls-Royce.
Il marche 5 minutes et Gilles s'arrête devant l'allée d'un immeuble modeste. Voilà, je suis arrivé. Il tend la main à Charles et entre dans l'allée.
42 clés à 25 francs. La clé à tout, la clé à gris, la clé à
Charles, sur le chemin qu'il ramène vers sa copine, se sent heureux. Heureux de quoi? De presque rien. Comme c'est drôle la vie. Aller au concert d'Area Mindrel. La salle était surchauffée, il y avait beaucoup de monde. Mais c'était bien, malgré que la sono a foiré un peu. Après le concert, Charles a raccompagné Gilles jusqu'à chez lui. Il était heureux et on rit comme des gosses. En mettant en boîte une fille, qui avait dragué pendant le concert, Gilles. Charles avait l'impression de connaître Gilles depuis longtemps. Cette nuit-là, il n'a pas pu dormir. Il avait constamment devant lui le visage de Gilles. La grand-mère de Gilles habite un appartement au deuxième étage d'un vieil immeuble, un trois pièces sombre, couloir donnant à droite à deux chambres, et à gauche à la salle à manger et à la cuisine. Les pièces sont pleines de meubles cirés 1930 et de plantes vertes. La grand-mère de Gilles a 60 ans. C'est une petite femme maigre qui a déjà les cheveux blancs. Depuis la mort de son mari, elle s'habille en noir et vit dans ses souvenirs. Elle aime bien Gilles, mais elle se sent un peu lasse pour vraiment s'occuper de lui. Lorsqu'elle s'en occupe, elle le fait comme une vieille personne. Gilles mène une vie assez solitaire. Il n'a pas vraiment d'amis, alors il passe son temps à lire ou à écouter du rock. Ses études ne se passent pas trop bien. Il a des difficultés à suivre. Trop rêveur. Malgré ses mauvaises notes et grâce à ses lectures, il est en avance sur ses camarades. Mais personne ne le sait. Le lendemain du concert, il se retrouve vers chez Christine. Charles a dit à Gilles de venir le chercher chez lui à 15h pour aller faire les disquaires. Je t'attendrai devant ton immeuble. Mais non, tu peux rentrer. Je ne sais pas, ça gêne. Ça va peut-être gêner. Si, c'est moi qui te le dis. Tu peux rentrer. Gilles, tout intimidé, sonne à l'hôtel des Nanteuil. Un domestique lui ouvre.
Je veux voir Monsieur Charles.
Bien, entrez.
Le domestique le fait entrer. Puis, il le laisse dans le hall. Un autre domestique descend les escaliers. Voit Gilles, s'approche de lui.
Monsieur,
j'ai rendez-vous.
Oh oui, veuillez me suivre.
Et il fait monter Gilles. Frappe à une porte. L'ouvre et rentre Gilles et ferme la porte. C'est une vaste pièce bureau avec un coin salon. Le bureau est au centre de la pièce derrière une baie vitrée. Au mur de droite se trouve une vaste bibliothèque. À gauche, le salon avec canapé, fauteuil, table basse, vitrine, où se trouvent des statuettes et au mur des tableaux. Gilles entend en sourdine jouer un air de valse. Gilles regarde tout ça sans bouger.
Vous désirez ?
Gilles se retourne et voit devant la bibliothèque François Xavier d'Anteuil, debout, une canne à la main.
Charles m'a demandé de venir le chercher chez lui. J'ai un rendez-vous avec lui. Et un domestique m'a mené jusqu'ici.
Le grand-père s'approche.
Charles est absent. Ça fait longtemps que vous connaissez mon petit-fils.
3 semaines, monsieur.
Moi, je suis le grand-père de Charles. Et vous ?
Gilles Boin.
Enchanté. J'espère que vous êtes meilleur élève que mon petit-fils.
Gilles rougit.
Je suis pas très bon élève.
Le grand-père haut ses épaules.
Ce n'est pas de votre faute. C'est l'enseignement qui ne vaut plus rien. Depuis mai 68, on a tout chambardé, tout chamboulé. On passe plus de temps dans les écoles à s'occuper de choses qui n'ont rien à voir avec la scolarité. Et sous prétexte d'égalité, on a fait entrer la barbarie dans les lycées. Il est impossible d'enseigner correctement dans de telles conditions. Moi, mais je vous ennuie, sans nul doute. Voyez-vous, mon jeune ami, j'ai décidé de vivre replié en dehors de ce monde de décadence. Vous voyez ici, c'est mon univers, mes livres, ma musique, mes œuvres d'art, tout ce que les gens ne savent plus apprécier. Écoutez cette musique, n'est-elle pas belle? Presque plus personne ne l'écoute. Pourtant, c'est mieux que du rap. Vous aimez le rap?
Gilles sourit. Non, je n'aime pas très bien.
Vous me plaisez. Le rap, c'est de la sous-culture. C'est du primaire. Toujours la même musique, saccadée. L'on ne chante pas, l'on crie directement au public en le tutoyant. Soi-disant que ça dit le mal de vivre des jeunes des banlieues. Mais c'est une affaire de gros sous. Ce sont les éditeurs de disques qui ont inventé cela. Ils se sont dit qu'il y a beaucoup de jeunes dans les banlieues, les UP. On va créer un produit pour eux. Ça rapportera gros. Le mal des jeunes. Le rock le disait avant et d'une façon moins primaire. Lui, c'était plus culturel comme il le disait. Savez-vous que le rap est dangereux? Si l'on donne aux banlieues sup au langage une culture à part, elles seront toujours percées et reconnues comme des villes à part. C'est le contraire qu'il faut faire. Il faut que l'on soit voit aucune différence entre les banlieues et les villes traditionnelles. Le jour où les gens des banlieues vivront comme dans les villes traditionnelles, presque tous leurs problèmes seront résolus. Et pour cela, il faut que les banlieues aillent vers les cultures des villes traditionnelles et non le contraire. Pardonnez-moi, j'ai dû vous ennuyer.
Non, je trouve que vous avez raison.
Vous savez, en vivant replié, l'on juge de loin, c'est bien, mais l'on peut aussi se tromper. La culture d'un peuple, c'est très important. L'on voit le niveau intellectuel des peuples à sa culture.
C'est la première fois qu'un adulte parlait avec Gilles de cette façon. Il en est flatté et trouve même des affinités avec le vieil homme. Gilles sourit.
Pourquoi souriez-vous?
On est bien ici.
C'est comme un cimetière. Un cimetière, ce n'est pas triste. C'est même assez joli et reposant. On se sent bien.
Pourquoi dites-vous que c'est comme un cimetière?
Ce sont des choses mortes que je conserve.
Non, la musique que l'on entend est bien vivante. Et puis... l'art est immortel. Enfin, c'est vraiment de l'art, quoi.
Tu as raison de dire que l'art est immortel, mon petit. Viens voir mes statuettes. Il y en a qui viennent de la nuit des temps.
Et François Xavier mène Gilles devant une de ses vitrines.
Vous voyez, toutes celles-là viennent de la Grèce antique et les autres là-bas de Perse.
Oui, elles sont très belles. Surtout ce jeune dieu-là, c'est une...
Oui, tu l'as bien reconnu. Tu es... Tu me plais, toi.
Il regarde sa montre Gousset.
J'ai mon médecin, il doit venir ce soir. Je ne peux pas vous garder plus longtemps.
Je vais vous laisser, monsieur. Le grand-père accompagne jusqu'à la sortie de la pièce Gilles.
Revenez me voir quand vous voudrez.
Oui, monsieur. Au revoir. Et le grand-père ferme la porte. Gilles est enchanté de cette rencontre. Quel drôle de monsieur. Mais il a raison. La sagesse vient sûrement en s'isolant du monde. Oui, c'est sûr.
Charles téléphone à Gilles pour s'excuser. J'étais obligé d'accompagner ma sœur à l'aéroport. Tu ne m'en veux pas ?
Non, j'ai fait la connaissance de ton grand-père.
Ah, oh, il n'a pas été trop rasoir ?
Non, il est très bien.
Ne fais pas trop attention à lui. Tu sais, c'est un original.
Moi, je le trouve très bien.
Tu es bien le seul.
J'espère que nous nous reverrons.
Oui. Moi aussi.
Nous sommes amis maintenant.
Cette phrase fait très plaisir à Charles. Et cela ne le gêne pas du tout que c'est Gilles qui prenne l'initiative de leurs sentiments.
Je te remercie. Tu as beaucoup de copains ?
Non.
Tu sais, je sors peu et puis les gens m'énervent.
Et moi ? Dit Charles.
Non, pas toi.
Il faut que je te quitte, parce que ma grand-mère n'aime pas que je reste trop longtemps au téléphone.
Salut, à la prochaine.
Oui, salut.
Charles pose le téléphone sur le bureau de son père et sort du bureau.
Et monte dans sa chambre. Il va s'allonger sur son lit. Il soupire. J'en suis sûr, Gilles est quelqu'un de bien. Prend sa table de nuit, son paquet de cigarettes et un briquet. Une fois la cigarette allumée, il pose le paquet et le briquet sur la table de nuit. Met son bras sous sa nuque et de l'autre côté tient la cigarette. Il fait exprès de s'en fumer au maximum pour pouvoir avoir la vue troublée par la fumée. Cela fait irréel et forme un écran entre le monde et lui. Il a la tête qui tourne un peu et semble planer. Au milieu de la fumée, lui vient le visage de Gilles. Un visage pur et presque enfant,
mais d'une grande mélancolie.
Cette clinique serait pour vous une base, un laboratoire, un centre. Mais oui, vous pourriez y résider pendant la moitié d'année, pendant la belle saison. Et l'hiver, vous pourriez quitter la clinique, bien sûr.
France, Irène Danteuil sait que son mari la trompe. Elle en souffre énormément. Pour oublier cette souffrance, elle s'occupe à organiser des soirées chez elle. Un samedi par mois, c'est la grande réception. Les préparations de ces soirées lui donnent beaucoup de temps. Le choix des invités, les boissons, la musique et les divertissements. Malgré tout cela, certains jours, elle n'arrive pas à surmonter sa peine. Alors, elle s'enferme dans sa chambre. Reste dans le noir au lit et boit du scotch. Personne ne vient la déranger. Discrétion, pour ne pas la voir dans un état peu reluisant. Les domestiques et la famille disent que c'est son jour de migraine. En fait, le jour de migraine, c'est le lendemain. Un vieux disque d'Edith Piaf, c'est lui que mon corps a choisi. Charles et Christine, dans les bras l'un de l'autre, font quelques pas de danse au milieu de la pièce. Puis, Charles, pris de vertige, d'un mouvement, il se tourne et ils se retrouvent allongés sur le lit, l'un contre l'autre. Ils restent les yeux dans les yeux. Et Charles prend les lèvres de Christine, qu'elle serre très fort contre lui.
Et quand il me tient contre lui, dans ses yeux caressants, je vois le.
Puis Charles se retourne et s'allonge à côté de Christine. Les bras au-dessus de la tête, il regarde le plafond. Christine aussi, elle dit : je ne sais pas pourquoi. Mais cette vieille chanson me fait beaucoup d'effet. C'est du joli effet en tout cas, dit Charles en souriant. Charles se penche sur Christine pour l'embrasser et d'une main il lui caresse les seins. J'ai envie. Tu en as encore un ? Il ouvre ses épaules. Je n'aime pas faire l'amour avec un gant. Ça préserve. Oui, je sais, de la connerie. Il lui soulève la jupe, elle serre les jambes, il soupire, elle se lève furieux, elle se soulève, descend à la pharmacie, non, je n'ai pas envie que l'on sache que j'ai envie. Il fait un pas vers la sortie et dit, tu me fais chier, et il sort de la pièce. Elle se lève et sort le rejoindre. Il met sa gabardine et son foulard. Qu'est-ce que tu fais ? Je m'en vais. Elle court se mettre à son cou. Reviens vite ! Peut-être, elle hausse les épaules. Il se dégage et sort de la pièce. Cette vie, j'en ai marre. Mais qu'est-ce que je vais faire? J'en ai ras-le-bol de tout ça. Pourquoi n'a-t-elle pas voulu cette putain? Mais pourquoi cette salope n'a-t-elle pas voulu? Salope. J'aime pas les préservatifs, j'aime pas les préservatifs, j'aime
pas les préservatifs. J'en veux pas, j'en veux pas, j'en veux pas, j'en veux pas.
En bas, vers les boîtes aux lettres, il rencontre Gilles.
Salut, salut. Tu vas à ta leçon ?
Oui. Charles voit que Gilles a mal boutonné le haut de sa chemise. Il a sauté un bouton.
Comme tu t'es habillé ?
Quoi ? Attends. Il lui remet sa chemise en place.
Merci, j'étais pressé.
Charles sourit. Il a vu que le col de sa chemise est usé.
Tu viens chez moi demain après-midi ?
Je ne sais pas, ça me gêne un peu.
Mais tu n'as pas à être gêné. Tu connais le grand-père maintenant.
Bon, eh bien d'accord. J'y vais à quelle heure ?
15h.
D'accord.
Au revoir.
Et Charles sort de l'allée. Charles, sur le chemin qui le mène chez ses parents, se sent triste et décide d'acheter un litre de bière qu'il boira dans la chambre. Il sait que c'est le jour des migraines de sa mère. Dans sa chambre, il boit à la bouteille une bonne gorgée et va s'allonger sur son lit. La bouteille dans les bras, il se sent triste, triste de sa vie, triste que sa petite copine n'ait pas voulu, triste d'être à chaque fois gêné lorsqu'il voit Gilles. Il a tellement peur de l'ennuyer. Il en boit encore une gorgée. La bière lui donne des nausées. Elle n'est pas très bonne. La prochaine fois, il choisira du scotch ou autre chose pour s'aider à sortir de ce monde. Il pose la bouteille à terre. Met ses mains sous sa nuque.
Pourquoi n'a-t-elle pas voulu cette salope ? C'est elle qui se pique, pas moi !
J'aurais dû dire à Gilles de passer ce soir.
Mais non, ce n'est pas possible. On ne sait jamais
ce qui peut arriver avec ma mère.
Si ce fumier de père ne la trompait pas tant aussi.
La porte s'ouvre.
C'est son père. J'ai tout entendu.
Il est clair.
Tu vas me présenter tes excuses.
Il s'approche du lit.
Un geste rapide, il défait sa ceinture et en donne un coup sur la cuisse de Charles. Petit morveux, je vais t'apprendre à être respectueux, moi.
Plus je t'aime et plus je meurs. Entends la chanson des saules. Les saules sont toujours pleureurs. Viens pleurer sur mon épaule. À quoi bon le ressouvient? lave des saules. Et les amours meurent un à un. J'irai pleurer sur ton épaule. L'oiseau qui niche au paradis ne croit jamais.
Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Sanctifié, dont c'était la première partie, production.